Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Et nous voilà donc prêts, puisque nous avons parlé la parole de Dieu, à lire la parole pour la prédication. Nous lisons Marc 4, les versets 1 à 20. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Il s'assembla auprès de lui une si grande foule qu'il monta s'asseoir dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre près de la mer. Il les enseignait longuement en parabole et leur disait dans son enseignement, « Écoutez, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Un grain en rapporta 30, un autre 60 et un autre 100. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole, afin que, tout en regardant bien, ils ne voient pas, et qu'en entendant bien, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. » Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les autres paraboles ?» Le semeur sème la parole. Ceux qui sont le long du chemin, où la parole est semée, ce sont ceux qui ne l'ont pas plutôt entendu que Satan arrive et enlève la parole qui a été semée en eux. Et de même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ce sont les hommes d'un moment. Et dès que survient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres ont reçu la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres ont reçu la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'acceptent et portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60 et un autre 100.
Une graine sans eau et sans lumière ne poussera pas. Et la parole de Dieu sans l'action du Saint-Esprit ne peut pousser en nous. Donc nous comptons sur son œuvre en nous préparant ce matin que nos cœurs soient touchés par l'Esprit de Dieu. C'est ma prière. L'Évangile selon Marc, qui est le journal de Pierre écrit par Marc, est un écrit rempli de petites actions ou de grandes actions dans lesquelles nous voyons souvent beaucoup de mouvements, aussitôt, etc. Vous connaissez le caractère de Pierre. Et aujourd'hui, le ton est différent dans l'article que nous étudions. C'est un enseignement particulier de Jésus qui nous est présenté, une parabole. C'est une parabole clé, hein, car c'est une des seules paraboles dont nous avons l'explication que Jésus donnait à ses disciples. Et à l'aide de cet article que nous voyons aujourd'hui dans Marc 4, les versets 1 à 20, nous allons nous poser quatre questions qui nous aideront à saisir ce que Jésus a voulu nous enseigner. Alors la première, c'est qu'est-ce qu'une parabole ? Qu'est-ce qu'une parabole ? Ensuite, la deuxième question sera, mais qui sème quoi ? Qui sème quoi ? Troisième question, où va la graine ? Où va la graine ? Et la dernière, qu'est-ce qu'un fruit ? Qu'est-ce qu'un fruit ? Jésus enseigne au bord de la mer, comme nous l'avons vu déjà une fois au chapitre 3, hein, verset 13. Ce qui est nouveau ici, c'est qu'il est dit que Jésus enseigne par des paraboles. Par des paraboles. Donc Jésus, ici, enseigne ceux qui sont autour de lui. Et quand il enseigne, il demande l'attention. Hein, il dit, écoutez. Hein, vous le voyez au début du chapitre 4, au verset 3. Je vous invite toujours à vos Bibles ouvertes dans le chapitre 3 de Marc 4. Hein. Donc Jésus demande l'attention et commence par dire « Écoutez !» et il termine sa parabole en disant « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Écoutez et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors qu'est-ce qu'une parabole ? Une parabole est une histoire simple de la vie courante qui permet de comprendre un enseignement spirituel lorsqu'on nous donne les clés de compréhension. Donc la parabole, c'est une histoire simple de la vie courante qui permet de comprendre un enseignement spirituel lorsqu'on nous donne les clés de compréhension. Alors les paraboles ne sont pas des fables, parce qu'elles nous parlent de choses spirituelles et ne transgressent pas l'ordre naturel des choses. Ce sont des faits qui sont possibles dans la réalité, ce ne sont pas des fictions. Les paraboles, ce sont des choses de la vie courante. Les paraboles ne sont pas des mythes, car elles ne sont pas des vérités elles-mêmes, hein, proclamées comme étant des vérités elles-mêmes, mais ce sont des véhicules de vérité. Ce n'est pas le fait de savoir qu'un semeur sème des graines qui tombent dans différents terrains qui est la vérité que Jésus veut transmettre, mais ce que cela signifie. Alors que pour les mythes, ils se présentent comme étant vérité par eux-mêmes. Les paraboles sont d'histoires simples de la vie courante qui permettent des comparaisons pour comprendre les vérités. Et nous trouvons plusieurs exemples dans la Bible et même dans l'Ancien Testament. Nous voyons par exemple Nathan qui arrive vers David et qui lui parle d'un homme qui avait une brebis et puis un riche voisin qui vient prendre cette brebis pour faire la fête avec un voyageur qui arrive chez lui. Vous vous souvenez sûrement de cette histoire. David sent la clé de compréhension, même s'il a compris que c'était quelque part une horreur ce qui venait de se passer dans cette histoire, il ne comprenait pas que ça le concernait. Il avait besoin de la clé de compréhension que Nathan lui a donnée. Nous comprenons facilement l'histoire d'un semeur qui jette des graines, et selon les terrains que ces graines rencontrent, eh bien il y aurait une conséquence différente. Mais nous avons besoin de l'explication de Jésus pour comprendre le sens spirituel de cette parabole. Qui est le semeur ? Qu'est-ce que cette semence ? Que représentent les terrains ? Alors pour plusieurs, c'est peut-être une parabole déjà bien connue, donc quelque part ça coule de source, c'est facile à comprendre, oui, parce que nous avons l'explication de Jésus. Mais sans l'explication de Jésus, comment pourrions-nous réellement comprendre cette parabole ? Et la foule, les foules qui écoutaient Jésus, ne recevaient pas d'explication. Les foules ne recevaient pas d'explication. Seuls les disciples recevaient les explications. Et l'explication des paraboles révèle le mystère du royaume de Dieu. L'explication des paraboles révèle le mystère du royaume de Dieu. C'est Jésus qui le dit ici. Et il le dit à ses disciples, à ceux qui croient, ceux qui sont touchés par cette grâce que Dieu nous donne. La non-explication à la foule manifeste en fait un jugement. Lorsque Jésus raconte une parabole qui n'est pas expliquée, pas comprise, c'est en fait un jugement qui est annoncé par Ésaïe, et Jésus en fait mention au verset 12. Hein, quand il est dit que tout en regardant bien, il ne voit pas, qu'en entendant bien, il ne comprenne pas, etc. Donc ça, c'est une prophétie d'Ésaïe que Jésus reprend ici. Ésaïe, le prophète Ésaïe, parle d'un peuple qui ne voulait rien entendre, de Dieu pour changer leur vie. Ils voulaient bien entendre des choses que Dieu disait, mais qui n'a aucun impact dans leur vie, aucun changement. Leur cœur s'endurcissait. Et la dernière fois, nous avons vu dans Marc 3 que Jésus parlait à des gens dont le cœur était endurci. L'endurcissement conduit au désespoir, car un jour la porte de l'arche est fermée et il n'y a plus de moyen de salut. Vous me direz, ouais, mais bon, les foules venaient écouter Jésus, non? Vraiment? N'était-il pas un peu comme toutes ces personnes qui sont allées voir Noé construire son arche? Et rien ne changeait dans leur vie? Ne venait-il pas plutôt voir les miracles de Jésus? Combien ont eu leur vie changée? Jésus parle en parabole pour permettre à ceux qui reçoivent la clé de l'enseignement spirituel de progresser et aux autres de rester dans l'ignorance. Et cela nous pousse à nous demander ce matin, mais est-ce que je désire la clé de l'enseignement spirituel ou la petite histoire du semeur me suffit? Plongeons maintenant dans cette première parabole rapportée par Pierre dans Marc avec la question donc, qui sème quoi? Qui sème quoi? On parle de qui d'abord? Il est parlé d'un semeur. C'est tout. D'un semeur. Il n'est ni question de statut social, de ses capacités, de sa force, de son appartenance, de son attirance ou de sa répugnance. Il n'est pas dit qu'il était bon en marketing ou non, ou s'il savait s'adapter aux situations rencontrées. Pourquoi n'y a-t-il pas de description du semeur? Parce que ce n'est pas l'attitude, les capacités, l'éloquence, la force de persuasion ou quoi que ce soit d'autre du côté du semeur qui en fin de compte donnera du fruit. Mais la semence dans un bon terrain. Ce n'est pas l'attitude, la capacité, l'éloquence, la force de persuasion ou quoi que ce soit du côté du semeur qui en fin de compte donnera du fruit. Mais la semence dans un bon terrain. Jésus est le semeur modèle. Et tous ceux qui sèment la semence font partie de ceux qui s'appellent semeurs. Il n'y a pas d'examen à passer, pas d'exploit à accomplir et pas de CV à fournir. Il suffit de semer. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette semence? Pierre, dans cet article écrit par Marc, nous dit au verset 14 du chapitre 4 ici que le semeur sème la parole. Le semeur sème la parole. Luc 8, 11 en parallèle nous permet d'être totalement sûr qu'il s'agit de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. La semence n'est donc pas des idées humaines, des concepts de publicité, des techniques marketing, des slogans accrocheurs ou des appâts pour surprendre ou attraper celui qui ne s'intéresse pas. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Semons-nous la parole de Dieu? Et comme terrain, recevons-nous des graines de la parole de Dieu? Ou nous semons-nous de la mauvaise herbe sur notre terrain? Bon, parlons justement des terrains, puisque c'est le centre de cette parabole. C'est ce qui détermine si la semence produit du fruit ou non. Et rappelons-nous que cette parabole est une clé pour comprendre les autres paraboles. Car Jésus dit, vous ne comprenez pas cette parabole, mais alors comment comprendrez-vous donc les autres paraboles? Alors sans la graine, bien sûr, il n'y aurait jamais de fruit. Et cela fait penser à Romains 10, 14 qui nous dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit « Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Mais la graine de la bonne nouvelle doit tomber quelque part. Donc où va la graine? C'est notre troisième point. Où va la graine? Alors Jésus présente quatre terrains que je pense que nous pouvons étudier à deux niveaux différents. Le premier niveau, c'est en lien avec la graine de l'évangile. Le terrain déterminera donc si nous sommes sauvés ou perdus. Cette graine de l'évangile, la parole de Dieu étant l'évangile, qui détermine si nous sommes sauvés ou perdus. Et un deuxième niveau, en lien avec la graine d'une vérité biblique dans notre vie chrétienne, et le terrain déterminera notre croissance spirituelle, notre sanctification, ou ce que nous avons bâti durant notre vie. Selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 3, je vous lis le texte, 1 Corinthiens 3, 10 à 15, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc ça, c'est le premier niveau, si vous voulez. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. C'est le deuxième niveau. Nous sommes donc premièrement invités à réfléchir au premier niveau et savoir si nous sommes sauvés ou non. Et si nous sommes sauvés, alors réfléchissons aussi à la manière de recevoir les vérités bibliques que nous lisons chaque jour dans la parole, que nous entendons le dimanche dans la prédication. Est-ce que cela change quelque chose dans notre vie? La graine produit-elle du fruit? Si les vérités bibliques ne changent rien à notre vie, il faut revenir au premier niveau, implorant Dieu de passer sa charrue, sa herse et son sarcloir, afin d'être une bonne terre préparée qui va porter du fruit. Ainsi, les vérités bibliques ne changent rien à notre vie. Il faut revenir au premier niveau, implorant Dieu de passer sa charrue, sa herse, son sarcloir, afin d'être une bonne terre préparée qui va porter du fruit. Et si les vérités bibliques influencent réellement notre vie, eh bien réjouissons-nous et continuons d'examiner notre terrain afin de continuer à accueillir la parole de Dieu. Alors prenons quelques instants pour observer les terrains que Jésus présente. Il en présente trois qui ne portent pas de fruits. Le premier, le long du chemin, où la semence est enlevée par Satan. Le deuxième, les endroits pierreux, où la plante est brûlée et séchée faute de racines. Ou parmi les épines, où la plante est étouffée par le monde. En fait, nos trois ennemis qui nous font pécher sont là. Satan, la chair et le monde sont représentés dans ces trois terrains infertiles. Alors, le long du chemin, c'est un endroit dur où la graine ne peut pas pénétrer. C'est dur. C'est le cœur dur de celui qui entend, mais les paroles lui passent par-dessus comme l'eau sur les plumes d'un canard. Les graines ne l'atteignent pas. Et Satan ne va pas laisser traîner ses graines. Il va les enlever. Satan est actif. Il cherche toutes les occasions pour empêcher les semailles. Vous connaissez bien ce texte dans 1 Pierre 5:8 qui dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Et cet endurcissement va produire généralement plusieurs mauvais fruits, la rancune, la culture du secret, le jugement, l'orgueil et généralement l'éloignement de Christ et de ceux qu'il aime. Alors si vous comprenez aujourd'hui que votre cœur est dur, insensible aux vérités bibliques, et que ce que vous entendez de la parole de Dieu, ici par exemple, ne produit aucun changement en vous, eh bien, criez à Dieu, afin qu'il passe la charrue, et repentez-vous de vous être révolté si longtemps contre le divin agriculteur de nos âmes. La dureté de cœur qui ne produit pas la repentance comme une habitude de vie, et de foi en celui qui a payé le prix, mène au jugement et aux peines éternelles. La dureté de cœur qui ne conforme pas sa vie à la parole entendue, mène aussi au jugement. Et ne vous accrochez pas à une profession de foi dite dans le passé ou même un baptême si vous ne voyez aucune réalité biblique influencer votre vie. Venez à Jésus-Christ et implorez son travail de charrue pour ameublir la terre. Le deuxième terrain est dans les endroits pierreux. Dans les endroits pierreux, ce n'est pas dans une bonne terre où on trouve des cailloux. Il faut juste un petit peu remettre la chose au clair ici, dans le texte. C'est pas une bonne terre où on trouve des cailloux, c'est un rocher où on trouve un peu de terre. Okay? C'est la chair qui est représentée ici par le rocher, qui domine le cœur. Le peu de terre est un intérêt spirituel superficiel. Ézéchiel parlait du cœur dur comme la pierre dans ce beau texte qui est en même temps une, une belle espérance, hein, quand il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Et le deuxième terrain, les endroits pierreux, c'est ce cœur de pierre avec cette fine couche d'intérêt spirituel superficiel. Et la réaction aux graines de la parole est très encourageante sur cette fine couche de terre. Il semble que tout de suite, il y a une pousse prometteuse. Généralement, ce sont les sentiments qui guident cet état d'esprit. Un camp, une belle prédication, ou un rassemblement, ou une conférence poignante met l'ambiance et permet de se réjouir. Mais à la fin des vacances, à la reprise du travail, à la moindre difficulté, l'ardeur diminue et même glace le plus brûlant des motivés, si le cœur est de pierre. Mais on se moque de moi lorsque je parle de la Bible ou de Jésus-Christ comme sauveur et roi. Je ne pensais pas que c'était cela la vie chrétienne. J'aimais bien être sur mon petit nuage. Mais je ne suis pas prêt à renoncer à mon bien-être, à mes plaisirs, ou qu'on me laisse tranquille parmi les non-chrétiens. Je veux bien venir sur un petit nuage le dimanche, mais ne me demandez pas de vivre en chrétien pendant la semaine, ça ne m'intéresse pas. Si vous ne vivez votre foi que le dimanche, vous ne pouvez rien construire qui tienne le coup. Et peut-être n'êtes-vous même pas chrétien du tout. Vous pouvez trouver l'évangile merveilleux, aimer les paroles qui sont dites de la Bible et même vous réjouir de les entendre. Si vous ne vous engagez pas à confesser Christ devant les hommes et à être prêt avec son aide à vivre les tribulations, la persécution à cause de sa parole, peut-être êtes-vous un endroit pierreux. Les graines ne peuvent pas avoir de racines, on ne porte pas de fruits. Donc venons à Jésus-Christ, venez à Jésus-Christ et implorez sa herse divine qui casse le roc et prépare la bonne terre qui change le cœur de pierre en cœur de chair. La bonne terre. Troisième terrain, parmi les épines. La terre semble bonne ici, semble bonne, mais les épines sont présentes. Et Jésus en souligne trois sortes qui viennent du monde. Le souci du monde, ou s'accrocher à son temps, les séductions des richesses et l'invasion des autres convoitises. On dit parfois qu'il n'est pas possible de mélanger la chèvre et le chou. Hein? Parce que la chèvre va toujours manger le chou. Oui, ça c'est facile à voir l'image. Hein? Il n'est pas possible de mélanger les habitudes du monde et les habitudes de la parole de Dieu. Deux textes très forts. Hein? Dans Jacques 4, verset 4, qui nous dit « Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Ou dans 1 Jean 2, 15 et 16, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Les épines vont toujours étouffer les graines de la parole de Dieu. Quand on parle du monde, c'est ce qui est défini dans 1 Jean 2, 16 que je viens de lire. C'est pas juste simplement les gens qui sont autour de moi. C'est vraiment cette notion, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. C'est ça le monde, quand on parle du monde ici. La séduction des richesses est pire qu'une pieuvre tentaculaire. 1 Timothée 6, 9 et 10 dit ceci, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns pour s'y être adonnés se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. » Alors, aimons Jésus-Christ, aimons sa parole et prions que l'Éternel passe son sarcloir et enlève toutes ces pousses de convoitise. Dépusquons les épines d'amour du monde, ou c'est cet amour du monde qui nous étouffera, même si on continue à venir à l'Église. Prions de tout notre cœur pour que tous ici, c'est vraiment ma prière, que tous ici nous soyons une bonne terre. C'est le quatrième terrain, le terrain que l'on préfère évidemment. Une bonne terre pour recevoir l'Évangile, en comprenant que notre état de pécheur, notre impossibilité de nous sauver nous-mêmes, est la merveilleuse nouvelle de Jésus-Christ qui a tout accompli pour celui qui se repent et qui croit. Une bonne terre pour recevoir les vérités bibliques, qui s'enracine dans nos cœurs et produisent de réels changements dans nos vies. Une bonne terre pour recevoir les vérités bibliques qui s'enracinent dans nos cœurs et produisent de réels changements dans nos vies. Au lieu d'être paresseux, eh bien, on va partager les dons que Dieu nous a donnés. Nous les mettons à son service afin de porter du fruit à sa gloire. Et en fait, vivre dans le bonheur. Parce que c'est là que nous sommes heureux. Dans la bonne terre, la semence de la parole de Dieu porte du fruit. Alors, pas tous les épis portent le même nombre de graines. Vous avez déjà vu? C'est dit qu'il y en a un, c'est 30, 60, 100. Si nous réfléchissons au premier niveau, nous ne sommes pas égaux face aux fruits que produit l'Évangile en nous. Oui, nous avons tous la vie éternelle. Il y a un fruit. Mais c'est pas le même pour tous. Matthieu 7, 16 à 20 nous dit ceci, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons ?» Chardons, on les enlever, là. Terrible, ça. Tout arbre bon porte du fruit, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il y a toujours un fruit. Si il y a une bonne terre et que la graine de la parole a été semée. Il n'est pas le même pour tous exactement, mais il y a toujours du fruit qui correspond à la graine. Et si nous réfléchissons au deuxième niveau, toutes les vérités ne porteront pas exactement les mêmes fruits dans nos vies. Il y a des choses qui vont plus nous marquer, qui vont plus porter du fruit, d'autres peut-être moins, c'est vrai. Et en plus, ça ne sera pas identique à mon voisin. Parce que Dieu n'a jamais demandé de comparer. Il a demandé de nous réjouir du fruit que nous portons et du fruit que ceux qui sont autour de nous portent pour sa gloire. Mais qu'est-ce qu'un fruit alors? C'est notre quatrième point, qu'est-ce qu'un fruit? Et là, je vais simplement prendre trois textes bibliques pour nous aider à y répondre. Le premier de Romains 6. Romains 6, les versets 20 à 22, qui dit ceci, « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. » Mais maintenant, là il y a le « mais maintenant », libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Le fruit de la sanctification, c'est-à-dire de s'éloigner toujours plus du mal pour venir toujours plus proche de la sainteté de Dieu. Et ça se voit dans la vie de celui qui vit avec Dieu. Cela signifie qu'on ne peut pas être à l'aise avec un péché connu. Si vous péchez, que vous savez que vous péchez, que vous êtes à l'aise avec ce péché, mais courez à la croix et demandez, mais Seigneur, agis dans mon cœur. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec ce péché, mais courez aussi à la croix pour vous en repentir. Dieu va vous pardonner. On s'éloigne du mal. On s'éloigne même de ceux qui font le mal lorsqu'ils le commettent. Paul aux Corinthiens parle aussi des fruits de la justice. Dans 2 Corinthiens 9, 10, il a dit « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence » et il augmentera les fruits de votre justice. Et on est dans un contexte dans 2 Corinthiens qui parle des bénédictions. Donc Dieu nous donne des bénédictions, c'est visible. Et ce sont des bénédictions que l'on reçoit pour donner généreusement. Ça peut être matériel, ça peut être spirituel, ça peut être moral. Il y a toutes sortes de biens que Dieu nous donne, que l'on reçoit pour donner généreusement. Et bien entendu, quand on parle d'un fruit, c'est le premier texte qui vous vient sûrement en tête, de Galates 5 et 22, qui nous parle du fruit de l'esprit. Évidemment, qui ne doit pas être une habitude quand on parle de cela, mais de nouveau, de s'arrêter sur ces éléments et de se dire, mais est-ce que je progresse dans ma vie, dans ces différents éléments? Je vous les relis. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Pour chacun, mais est-ce que je progresse? Oh, moi je peux vous dire, j'aimerais progresser encore beaucoup plus, c'est vrai. Mais on peut voir des progrès dans nos vies, parce que Dieu agit, c'est lui qui agit dans nos vies. Donc en conclusion, j'aimerais vous poser quelques questions. Le semeur sème la parole. Quel terrain es-tu? Donc il y a le premier niveau de salut, puis il y a le deuxième niveau pour les vérités bibliques dans notre vie chrétienne. Sommes-nous un chemin dur où Satan vient enlever la semence de la parole de Dieu? Sommes-nous un endroit pierreux où les désirs de la chair dominent et font oublier toutes les joies momentanées de l'écoute de l'Évangile? Est-ce un endroit parmi les épines où le monde étouffe la semence de la parole de Dieu? Ou est-ce une bonne terre où la semence de la parole porte du fruit? Jésus-Christ est venu pour sauver ceux qui se repentent et qui croient. Es-tu sauvé? Jésus-Christ est venu pour faire grandir dans la sainteté ceux qui lui appartiennent. Progresses-tu dans la vie chrétienne à l'image de Christ? Le semeur sème la parole. Quel terrain es-tu? Nous allons prier. Éternel, nous sommes ce matin dans la reconnaissance parce que non seulement tu nous as enseigné par une parabole, mais tu nous as donné la clé de la compréhension de cette parabole. Seigneur, tu veux nous permettre de grandir, de progresser, de t'aimer encore plus, de nous réjouir, de nous avoir préparés à être une bonne terre. Et je te prie, Seigneur, que pour chacun ici, nous puissions vivre cela. Que ces graines de salut portent un fruit éternel dans chacune de nos vies. Éternel, je peux que venir devant toi et te demander pardon parce que encore trop souvent il y a des tassements de cette terre dans ma vie et des graines tombent sur ces lieux endurcis. Il y a encore trop de lieux où la roche est recouverte d'une fine couche. Il y a encore trop d'endroits où des épines poussent. Oh Seigneur, j'aimerais te prier que tu puisses passer ta charrue, ta herse et ton sarcloir dans ma vie afin que je puisse encore plus grandir selon toi. Et je te prie cela pour chacun d'entre nous, Père. Que toutes ces graines de paroles, de vérité que nous entendons, que nous comprenons, Seigneur, tu ne nous demandes pas de vivre ce que nous ne comprenons pas, mais nous avons déjà bien à faire avec tout ce que nous comprenons. Donne-nous cette grâce, Seigneur, de cheminer et de nous réjouir aussi des fruits que tu nous permets de porter à ta gloire. Merci pour les fruits que nous pouvons voir aussi vers les frères et sœurs autour de nous et que nous puissions nous encourager et te glorifier. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.